Catherine le matin. Voici le Doc Mailloux.
Docteur Mailloux, bonjour.
Oh, vous n'êtes pas facile à suivre ce matin. Messieurs, la table est pleine. Ouf! Alors, l'histoire de... l'histoire des médecins.
Oui.
C'est-tu beau, hein? La violence par arme à feu. J'ai pas trop compris. Et ce qu'ils désirent, Claude, ils veulent interdire les armes de poing?
Les armes de poing et les armes d'assaut.
Ah! Oh, et les mitraillettes?
Ouais.
Ouais.
Ben là, pour les mitraillettes, y a-tu quelqu'un qui va prétendre que c'est correct de se munir d'une mitraillette au Canada?
Ouais, y a ça. Là, on va pas à chasse avec une mitraillette.
Hein. Ben là, un peu de sérieux quand même. Il y a des collectionneurs qui veulent collectionner des mitraillettes. Est-ce qu'ils ont le droit ou si on leur enlève ce droit-là?
Ah ben ça, écoutez, c'est pas écrit dans la nouvelle en question. Là. Je sais pas qu'est-ce qui arrive avec les collectionneurs.
Vous savez, les médecins à l'occasion peuvent être un peu niaiseux, comme gros. Là, la violence par arme de poing. Regardez, si vous me demandez, à titre de psychiatre, 39 ans et demi de clinique derrière la cravate, les armes à feu, ça m'a jamais posé un problème, et encore moins les armes de poing.
OK.
Bon. Maintenant, ce que je sais, c'est que les amis, les conjoints de mes patients qui trafiquent la drogue au-dessus de 2000 $ par semaine de trafic de dope, ils ont tous un gun. Ils ont tous un gun, une arme de poing.
Mm-hmm.
Et ça a été toujours acquis sur le marché noir. J'espère que les médecins m'écoutent, là. Ça a été acquis sur le marché noir, les amis.
Ouais.
Et le numéro de série est buriné. Ils prennent une meule, là, une meule électrique, puis ils le meulent jusqu'à temps que le numéro soit effacé. Ça s'appelle buriné. Effacé. Non retraçable. Me voyez-vous venir un peu?
Ce que je comprends, et je suis d'accord un peu avec vous, c'est que même si on interdisait avec une loi, n'importe quelle loi, il y a toujours quelqu'un qui est capable de contourner la loi.
Bon, qui fait rentrer au Canada des armes de poing? Est-ce que vous savez?
Je sais
les
pas,
armes de poing pourraient être vendues sur le marché noir.
Je ne sais pas ce que ça peut être, les moteurs, ça peut être des groupes criminalisés.
Bon, à ma connaissance, il y a deux sources. Les touristes, les Québécois qui vont aux États-Unis. Il y en a plusieurs qui m'ont confié, c'est ramener un gun.
Ouais, mais ça, c'est un peu risqué, là.
Je vous dis que plusieurs, dans ma vie, m'ont confié, c'est ramener un pistolet des États-Unis. OK? On m'a confié aussi qu'il y a un trafic, et c'est assez connu, il y a un trafic d'armes dans le coin d'Aquassassenay, là. Il y a des réserves, là, puis ça passe assez facilement par bateau. Je ne sais pas trop comment. C'est téléporté ou je ne sais pas.
Mais comme on dit, probablement, c'est des groupes criminalisés qui s'occupent de ça. Là. Quand on parle de marché noir, c'est eux autres qui sont à la tête, justement, là, de ce type d'opération-là.
Oui, puis on m'a dit qu'un arme de poing buriné, le numéro de série effacé, bon, ça coûte environ 500 $, 500 à 700.
Okay.
C'est ce qu'on m'a dit. Peut-être qu'on m'a mal informé. Alors, les médecins auraient avantage. Alors, à titre de psychiatre, cette histoire-là ne me pose aucun problème.
OK.
Alors là, est-ce que dans certaines provinces, il pourrait y avoir un problème relié aux armes de poing et aux mitraillettes? Peut-être. Je le sais pas. Je vis au Québec. OK?
OK. L'étude de Raphaël... L'étude de Raphaël, ça vous fait réagir de quelle façon?
Eh bien, je l'ai pas compris, là. C'est pas clair. C'est pas clair. La science, parfois, me confond. L'étude de Raphaël, j'ai pas trop compris.
En résumé, là, c'est qu'on disait que les enfants pauvres qui sont très inattentifs à la maternelle ont 30 ans plus tard des revenus annuels 10 % moins élevés, selon une étude de Montréalaise.
Seulement 10 % moi, je me réjouis.
Oui, vous pensez que ça aurait été plus?
Écoute, si les enfants des pauvres gagnent seulement 10 % de moins en moyenne, au salaire moyen plus tard dans leur vie, on fait un effort inouï pour les pauvres.
Et c'est selon, en fait...
Inouï! Inouï! Et vous pensez, les pauvres, ils vont grandir, puis leur salaire va être seulement 10 % de moins que la moyenne nationale.
Ouais.
Et je nous trouve extraordinaire. comme pays. Si c'est vrai.
Est-ce que je dois comprendre, Doc, aussi que selon cette étude-là, si on s'attaquait au problème d'inattention chez les jeunes dès la maternelle ou la prématernelle, qu'on corrigerait le problème plutôt que de s'y attaquer juste quand ils sont au primaire?
Oui, mais messieurs, soyons sérieux, là. Êtes-vous en train de me dire qu'on va prendre les enfants pauvres, on va les instruire, puis ils vont avoir le même salaire moyen annuel que les enfants qui viennent de classes plus favorisées?
Mais c'est ça, mais
êtes-vous sérieux ce matin?
Moi, je ne sais pas. Moi, je me disais parce que...
Est-ce que vous connaissez les ravages de la pauvreté?
Ah, c'est sûr.
Est-ce que je vais devoir vous expliquer, pour l'avoir côtoyé de très longue date, la pauvreté et la misère humaine? Mais là, c'est comme si vous me diriez ce matin, écoute, Mayou, tu sais, la pauvreté et la misère, là, on peut facilement vaincre l'impact négatif de ça.
Mais en fait, on ne peut pas facilement vaincre l'impact négatif de ça, mais ce qu'on veut dire, je pense, là, et je parle sinon pour moi, qu'il y a sûrement certains enfants qui sont qui peuvent être très doués, mais qu'à cause de leurs moyens financiers, n'ont pas la chance de se développer comme les autres.
Ou de stimulation, peut-être.
Mais Raphaël, j'en suis un bel exemple.
Bon, ben.
Je viens du bout du rang 4 de Normandin, qui est aux confins de la civilisation. J'ai été instruit, puis ça n'a pas coûté une scène, c'était des religieux, c'était des enseignantes qui étaient payées pas cher, puis ensuite c'était des religieux qui coûtaient rien.
Oui.
Écoutez, ma première année de cours classique, c'était 200 $. Alors, des pauvres dans ma classe, puis ceux des camarades de classe, en élément latin, première année de mon cours classique, qui n'avaient pas payé le 200 $, il y en avait plusieurs.
Mais comme vous, Dr Mayou, qui veniez justement d'un milieu modeste, d'un milieu pauvre.
Pauvre.
Pauvre, bon.
Mais
je veux dire, c'est sûr, par contre, vous restez sur une terre, là, mais quand je dis vous restez sur une terre, vous pouviez quand même vous alimenter et tout, là, dans ces années-là.
Oui.
Mais il reste que vous, pour financer vos études, par exemple, de quelle façon vous avez procédé?
Non, ça coûtait rien.
Okay.
C'était gratuit. C'était gratuit. Et jusqu'en première année...
D'université?
Non, jusqu'en première année du cours classique.
OK.
OK, l'équivalent de la 8e année.
Mais vous voyez, aujourd'hui...
Au primaire, c'était gratos. Il n'y avait pas de... Hormis une coupe de crayon puis un petit coffret, là, je vous assure qu'il n'y avait pas grand-chose. Là.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même réalité et c'est plus difficile dans le sens que, je veux dire, il n'y a plus de religieuses qui donnent de cours à des jeunes enfants. Là. Ça se voit plus,
ça ne coûte pas trop cher au Québec, là, les amis. Maintenant, est-ce qu'il y aurait, question intéressante, est-ce qu'il y aurait un effort supplémentaire de gratuité scolaire à faire pour les pauvres et les miséreux? Je vous réponds oui. Je l'ai vécu. Première année du secondaire, première année du cours classique, les pères capucins admettaient un pourcentage, pouvez-vous croire, d'étudiants qui étaient doués et dont les familles ne pouvaient pas payer la scolarité de 200 $ pour l'année scolaire, pension incluse. On était pensionnaire.
Oui. Mais dans ces années-là, Dr Mayou, quelqu'un qui voulait poursuivre ses études puis aller le plus loin possible, il y en avait qui rentraient chez les frères, puis qu'après, qui débarquaient une fois qu'ils avaient réussi. Là.
Le cours classique, écoute, on entrait en communauté religieuse, Serge, uniquement après... avoir complété toutes les études secondaires.
OK. Mais même pour l'université, Dr Mayou?
C'était 8 ans. Non, pas l'université.
OK.
Après le 8 ans d'études secondaires. Alors, le cours classique, ça durait 8 ans. Et après ça, ceux qui voulaient entrer en communauté, mais pas pendant. On n'entrait pas en communauté pendant. Marquez bien qu'ils aimaient bien qu'on veuille... Moi, on m'a demandé souvent si je voulais faire un père.
Ouais.
J'ai toujours répondu oui. J'ai jamais menti.
Parce que c'était l'élite. Vous étiez un exemple pour la famille.
Non,
quand vous aviez un prêtre dans ces années-là, dans votre famille,
non? Non, non. Les pères capucins, à chaque année, avant de me réadmettre pour l'année suivante, me demandaient si je voulais faire un père.
OK.
J'ai toujours dit oui, à chaque année.
Parce que vous étiez convaincu à ce moment-là.
Oui, je voulais faire un père de famille.
Okay. Oui, c'est ça. On ne spécifie pas quel genre de père.
Je n'ai jamais parlé de capucin, vous,
non.
Là.
Je suis très sérieux, monsieur. Je n'ai jamais menti.
Non, ça, aurait toujours... pris une, ça aurait pris une sous-question.
C'est drôle parce que je vous imagine pas en communauté religieuse. Je sais pas pourquoi.
Ben, moi aussi, écoute, initialement, pendant les premières années, jusqu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, 14 ans et demi, je voulais être missionnaire et aller missionnaire capucin au Tchad, en Afrique. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me masturber. Et à 2 à 3 fois par jour, c'était pas compatible. J'ai réalisé par moi-même que le seul péché que je commettais à l'époque, c'était le péché de la chair. Je me masturbais trop.
Ouais.
Tu comprends?
Ça vous a fait changer de voix, je comprends.
Ben là, j'ai bien compris que je pouvais pas... avec une libido comme ça, c'était incompatible. Tu sais, le vœu de chasteté, là, personne me l'a dit, mais... Tu sais, à 2-3 masturbations par jour, là...
Vous l'avez réalisé par vous-même, c'est le cas de le dire. Hey, Dr. Mayou, vous vouliez nous parler aussi de science et de TDAH?
Ben oui. Écoutez, je suis confondu. Vous avez entendu Falardeau, le pédiatre Falardeau, dimanche soir, à Tout le monde en parle.
Oui, Dr. Guy Falardeau.
Qui nous a dit, qui nous a dévoilé que le TDAH... était 2/3 plus fréquent, c'était 2 garçons pour une fille. Hein? Là, au niveau de la prévalence.
Mm-hmm. Oui.
Hier soir, j'ouvre mon DSM-4, et dans le DSM-4, qui est le manuel diagnostique des psychiatres, on nous informe que les études mondiales vont de, le ratio garçon-fille va de 4 pour 1 à 9 pour 1. Vous me suivez jusque-là? Ça, c'était l'état de la science reconnu jusqu'à il y a 4-5 ans. Arrive le DSM, nouvelle réédition du DSM, DSM-5. Puis là, on nous informe que c'est 2 pour 1 chez les enfants. Ration 2 garçons pour une fille.
Oui.
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la science, là, mais... Et, écoutez bien la phrase suivante. Les sujets féminins ont plus tendance que les sujets masculins à présenter dès le départ des caractéristiques inattentives.
Ah oui.
Ben, écoutez... Là,
donc, au départ, c'est les femmes, les jeunes filles qui ont plus, sont plus prédestinés à ça, là, concernant l'inattention, c'est ça?
Exactement, c'est ce qui est écrit dans le DSM-5, okay. Mais s'il vous plaît, n'allez pas croire ça, là.
Mais vous voyez, c'est ça, ça m'étonne, parce que moi, j'ai toujours pensé, je sais pas pourquoi, là, c'est peut-être la pensée populaire, mais que c'était les garçons qui étaient peut-être plus inattentifs que les filles.
À venir jusqu'à il y a 5 ans, c'était un ratio de... Voyez-vous, les études mondiales mentionnait des chiffres allant de 4 garçons pour une fille à 9 garçons pour une fille, dépendamment des études. Puis là, on est en train de nous vendre la salade que les fillettes, très tôt dans leur vie, seraient plus inattentives que les garçons.
Et pourquoi vous pensez qu'il y a eu ce changement-là dans le DMS-5, du DMS-4 au DMS-5?
Fouillez-moi. Aucune espèce d'idée, ça n'a pas de bon sens. Alors, la science, parfois, peut prendre des bizarres déchires. Ça peut déraper. La science peut déraper. Alors, on va attendre la suite, parce que là, ça ne fonctionne pas. Un petit mot sur l'Iran?
Oui.
Vous savez, comment se fait-il, messieurs, qu'on n'arrête pas de nous donner des nouvelles du monde musulman? Ça commence à mériter. Là, dans le Journal de Montréal, dans la section Le Monde.
En page 22.
Oui, en page 22. Les Iraniens fêtent le 40e anniversaire de la Révolution. Ben, jusque-là, pas de problème. C'est de leurs maudites affaires. Écoutez bien ceci. Malgré une pluie battante perçue comme une bénédiction dans un pays aride, une foule innombrable a convergé vers la place Azadi, à Téhéran. Téhéran, c'est la capitale. Je cite, « Mort à l'Amérique, abat l'Angleterre, mort à Israël, nous piétinerons les États-Unis. » Israël ne vivra pas 25 ans de plus, pouvait-on lire sur les pancartes brandies pour l'occasion. Des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés.
Il y a même un orateur, parce que je lis d'autres textes dans le journal Le Monde en France, qui disait « Une gifle aux États-Unis et aux ennemis de la Révolution, parce que cela fait 40 ans que nous tenons. »
Vous savez, rappelez-vous que les musulmans de Toronto, il y a 6 ans, voulaient appliquer, entre eux, pour tous les litiges civils, la charia. La charia, c'est la loi religieuse islamique qui est mur à mur appliquée en Iran. Êtes-vous d'accord avec moi jusque-là? Mm-hmm. L'Iran, 82 millions d'habitants. L'Iran, est-ce que l'Iran a des armes nucléaires ou pas?
Mais ils ont un programme de missiles balistiques.
C'est, écoute, est-ce qu'ils sont menteurs ou honnêtes? Je sais pas, là. Mais ils prétendent qu'ils ont des armes nucléaires balistiques. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai? Fouillez-moi.
Ouais.
Donc, ils peuvent attaquer, puis attaquer sérieusement, là.
Oui. Et vous voyez, il y a un sondage qui a été effectué, là, je continue à la lecture, depuis les États-Unis par téléphone, par le cabinet d'études Aaron Paul, et on dit là, que c'est affilié à l'Université du Maryland. Il y a 95,8% des Iraniens qui tiennent à ce que leur pays poursuive son programme balistique, le programme qui, justement, est dénoncé par Washington et l'Europe présentement. Là.
Bon. Alors, quand est-ce que vous allez interpeller Amir Kadir, iranien d'origine, et lui demander qu'est-ce qu'il pense de ça? Quand est-ce que vous allez lui demander? Quand est-ce que vous allez appeler sa fille? « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Ce qui se passe chez tes ancêtres? Ouais. » Quand est-ce que vous allez demander aux musulmans de Toronto « Pensez quoi de ça, l'Iran? » Mort à l'Amérique, à bas l'Angleterre, mort à Israël?
Mais surtout la réaction vis-à-vis les
Quand est-ce que vous allez demander aux musulmans de Montréal « Qu'est-ce que vous pensez de ça, ce qui se passe là? » Êtes-vous d'accord avec ça? Quand est-ce que vous allez demander aux musulmans de Québec « Qu'est-ce que vous pensez de ça, ce qui se passe en Iran? » Êtes-vous d'accord avec ça, mort à l'Amérique?
Mais vous pensez pas, Dr Mayhew, que y a justement, quand on parle de ces Iraniens-là, là, qu'on voit justement qui célèbrent le 40e anniversaire, que c'est des extrémistes, puis ça veut pas dire que les musulmans qui se trouvent, peu importe à quel endroit, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, que ça veut pas dire nécessairement que c'est des extrémistes comme ceux-là.
Mon Serge...
S'ils sont partis, d'ailleurs, du pays, c'est peut-être pour ça, non?
Serge?
Oui.
Qu'est-ce que j'ai suggéré tout à l'heure? J'ai suggéré de demander, pas à Serge, qu'est-ce qu'il pensait, à Amir Kadir.
Des gens qui sont sortis de ce pays-là.
À sa fille, aux musulmans de Toronto, aux musulmans de Montréal, au Conseil canadien des musulmans, aux musulmans de Québec. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ah oui, la question se pose, certain.
Hein? Pas Serge. Ton opinion là-dessus.
Oui, vous en foutez.
Que tu essaies de me rassurer là-dessus, non.
Non, mais c'est vrai. Puis même les Iraniens, quand on parle de la révolution, justement, iranienne, il avait foutu les Américains dehors de l'Iran. Ouais. À ce moment-là, c'était le Shah d'Iran qui était là, puis qui était appuyé par les Américains. Puis à un moment donné, ben, c'est les Ayatollahs qui ont fait leur entrée.
Serge? Tu viens d'essayer de tenter de me rassurer.
Je le sais, je suis pas Amir Kadir.
OK? À l'effet que, écoute, c'est un petit groupe d'extrémistes, là.
Ouais.
Hein? Je te rappelle, je vous rappelle, 82 millions d'habitants et tout le pays fonctionne selon la charia, la loi religieuse, islamique. Petit groupe d'extrémistes? 82 millions! Charia mur à mur en Iran. Armes nucléaires.
Il y a Gabriel qui nous écrit, Doc, qui nous dit « Est-ce que le Doc Mayhew croit réellement que l'Iran peut faire quoi que ce soit contre les États-Unis? » Il dit « Si les Iraniens appliquent la charia et le Coran, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas attaquer un autre pays en raison que Dieu n'aime pas les oppresseurs.
» C'est quoi cette affaire-là? Là? Raphaël, qu'est-ce que veut dire l'auditeur?
C'est une bonne question. Serge n'est pas Amir Kadir et je ne suis pas l'auditeur.
J'ose plus vous poser de questions, vous me ramenez toujours à Amir Kadir.
En fait, je pense que ce que l'auditeur veut dire, c'est que...
Non, mais sérieux, pourquoi vous ne l'appelez pas, là? Amir, tu connais ta race. Doit-on s'inquiéter ou en rire?
Ben, peut-être pas en rire, là.
Rassure-nous, Amir. Mm. Ça s'en va où, ça? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont... Écoute, lorsqu'ils disent, lorsqu'ils mettent sur des pancartes publiques, Israël ne vivra pas 25 ans de plus. Faut-il en rire ou prendre ça au sérieux?
Mm. Docteur Maillot?
Et après ça... On vient nous dire, on vient nous répéter dans les médias que nous avons besoin d'être informés sur l'islam. Moi, j'ai l'impression que si j'ai besoin d'être informé, à tous les jours, presque à tous les jours, les amis, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, je lis des nouvelles sur le monde arabo-musulman. Et on vient me dire après que j'aurais besoin d'être informé. C'est dans le journal de Montréal, là. Tout qu'un tirage, 1,3 million de lecteurs. T'sais, on n'est quand même pas 80 millions au Québec, là. On est 7 millions.
Docteur Maillot, on s'en reparle. Il y a la commission PM ce matin avec Robert à 9h05. Puis on va vous retrouver aussi avec José à 9h30, le doc et José. Ben, à tantôt!
On s'en va où avec ça?
On s'en va à la pause. Bye bye, à tantôt.
Salut, Doc.
Bye bye. Les commentaires du Dr Maillot. Puis effectivement, on s'en va à la pause.